Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il fallait un certain cynisme pour baptiser Rameau d'Olivier une opération militaire. C'est pourtant le nom qui a été donné à l'offensive que mène l'armée turque depuis le 20 janvier dans le nord de la Syrie. Sa cible, les IPG, les Unités de Protection du Peuple, une organisation armée kurde considérée comme terroriste par les autorités turques. Les autorités turques, le pluriel est-il encore vraiment de mise dans un pays où le pouvoir est de plus en plus concentré, pour ne pas dire confisqué par un seul homme, Recep Tayyip Erdogan. Le coup d'État raté de juillet 2016 a donné au chef de l'État l'occasion de museler tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un opposant. L'état d'urgence semble avoir eu raison de l'état de droit. Dans son baromètre annuel sur la liberté de la presse, Reporters sans frontières classe la Turquie au 155e rang sur 180. De nombreux journalistes sont en prison. Ils y côtoient des opposants politiques, des syndicalistes, des militants des droits de l'homme. Une situation d'autant plus préoccupante que rien, ni à l'extérieur du pays, ni à l'intérieur, ne semble en mesure d'y remédier, comme si le président turc était devenu intouchable. Alors qui peut stopper Erdogan ? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre ce soir en compagnie de trois invités. Armet İnsel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, politologue. Vous avez publié aux éditions La Découverte la nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Livre qu'on peut trouver en version poche et augmenté, ça date de 2017. Pour discuter avec vous, Ariane Bonzon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Slate.fr, spécialiste de la Turquie. Vous signez de nombreux articles sur ce pays. Le dernier en date, les Turcs sont-ils lâchés par la Cour européenne des droits de l'homme? Et puis, troisième invité, Marc Pierini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été ambassadeur de l'Union européenne en Turquie de 2006 à 2011. Vous êtes aujourd'hui chercheur à la Fondation Carnegie à Bruxelles. Et on vous doit Où va la Turquie? C'était aux éditions Actes Sud en 2013. Alors, je voudrais d'abord qu'on commence avec vous trois par faire un état des lieux sur ce qu'il reste peut-être de liberté en Turquie et sur l'autoritarisme du pouvoir actuel. Est-ce que d'ailleurs cet autoritarisme-là, on pouvait le détecter dès la prise de pouvoir d'Erdogan? Alors certes, il n'est président que depuis 2014, mais on peut dire que l'AKP, son parti, est au pouvoir en Turquie depuis 2002. Est-ce que cet autoritarisme-là, il existait déjà au départ? Ou bien est-ce qu'il y a eu une forme de rupture peut-être à la faveur du coup d'État de juillet 2016, Armet İnsel?
En Turquie, la question pertinente jusqu'à récemment, ce n'était pas est-ce que Tayyip Erdogan est autoritaire ou le parti AKP est autoritaire. C'était d'abord pourquoi on n'arrive pas à sortir de l'autoritarisme. Autrement dit, l'AKP et Tayyip Erdogan sont venus au pouvoir et ont bénéficié de la présence des institutions et d'une tradition autoritaire. Déjà, il y a un acquis de ce type. Deuxièmement, il est vrai que par rapport à cette tradition autoritaire laïque, kémaliste, institutionnelle, etc., Tayyip Erdogan et son parti ont entrepris un mouvement de transformation qui pouvait apparaître à l'époque comme un mouvement de démocratisation et une sortie d'autoritarisme par le haut. Et à partir de 2007, et plus particulièrement à partir de 2010, il y a deux moments importants, on arrive de plus en plus à voir une montée d'autoritarisme, mais cette fois-ci un autoritarisme refondateur, c'est-à-dire un autoritarisme avec une dimension beaucoup plus conservatrice, un autoritarisme beaucoup plus autour d'une personne et non pas autour des institutions, et c'est peut-être la différence fondamentale, c'est ça. Un autoritarisme donc qui se transforme vers une autocratie, hein, c'est un autoritarisme autour d'une personne, c'est une autocratie, et Tayyip Erdogan commence à mettre en place une dynamique et d'ailleurs élimine tous les fondateurs de son parti. Il devient l'homme seul qui détient tous les pouvoirs. Le moment le plus important de rupture, c'est 2013. 2013, les événements de Gezi, il est totalement cassé dans sa légitimité, et puis à partir de là, une fuite en avant.
Il faut rappeler, hein, 2013 sont des manifestations qui ont lieu, qui commencent d'abord à Istanbul, puis qui gagnent un certain nombre de villes. C'est
toutes les villes quasiment.
Voilà, des manifestations contre un projet d'aménagement urbain. Enfin, c'est comme ça en tout cas que c'est présenté. Puis ça prend une toute autre dimension. 2013, davantage que 2016, Ariane Bonzon. C'est-à-dire que finalement, cette accélération qu'il y a pu y avoir quand même après le putsch raté, ça n'est qu'une accélération. En tout cas, ça n'est pas une rupture dans l'autoritarisme.
Alors justement, c'est ça qui est intéressant. En 2013, donc grand mouvement de foule, de population, donc avant l'été, puis des affaires de corruption qui sont mises au grand jour et qui touchent, si ce n'est Recep Tayyip Erdogan lui-même, tout son entourage. Au fond, trois mois après, des élections en 2014 municipales, puis les élections présidentielles d'août 2014. Or, l'AKP en sort vainqueur des municipales et il sort élu président. Tout était normalement disposé pour qu'il ait en tout cas un bien moins bon score et qu'il ne soit peut-être pas élu, ou en tout cas que l'AKP perde au municipal. Pourquoi ? Et c'est ça la question. Et on peut se demander, je sais que j'ai écrit un papier à ce moment-là, si le problème, alors c'est un peu provocateur, hein, si le problème n'est pas plus l'alternance, l'alternative à Erdogan que Erdogan en Turquie. Est-ce que le vrai problème, c'est est-ce qu'il y a vraiment une opposition qui peut... Est-ce que l'espace politique laisse la place à une opposition? Et ce que Ahmet a dit est très important. Parce que, avec le multipartisme en 1950, qui s'est installé qu'en 1950, hein, chaque année, tous les 10 ans, il y a eu un coup d'État. Donc, pour faciliter, si vous voulez, la vie politique, c'est pas évident avec un coup d'État. Puis, dans les premières années de l'AKP, de Recep Tayyip Erdogan, deux institutions, et là M. Pirini va peut-être me dire ce qu'il en pense, mais deux institutions ont joué un rôle extrêmement important, c'est l'armée. Et l'armée, c'était le pouvoir régalien, c'est-à-dire les grands sujets kurdes, le sujet Chypre, le sujet l'islam radical, c'est l'armée qui jouait le contre-pouvoir. C'est-à-dire que du coup, l'opposition avait du mal, si vous voulez, à trouver sa place face à l'armée. Et pas seulement l'armée, mais moi, ça c'est ma thèse, l'Europe. C'est-à-dire qu'à la fois l'Europe a été un formidable levier pour les démocrates, mais c'était, je me pense, c'est une opinion, c'est que parfois l'opposition turque s'est un peu reposée sur l'Europe, qui chaque année faisait un rapport annuel pour dire ce qui n'allait pas. On attendait beaucoup de l'Europe, qu'elle tape un peu sur les doigts de Erdogan ou qu'elle joue son rôle. Voilà. Donc si vous voulez, pour l'espace politique, il y avait ces deux institutions qui prenaient beaucoup de place et qui expliquent qu'en 2013, c'était très difficile d'avoir une vraie maturité politique pour s'opposer à Erdogan.
Et qui aurait donc une forme de responsabilité, même si ce n'est peut-être pas la responsabilité principale, dans le fait qu'en tout cas, aujourd'hui, le président turc ait réussi à accumuler, à concentrer autant de pouvoir, Marc Pirini ?
Je dirais que, effectivement, en Turquie, le pouvoir a joué sur la négociation avec l'Europe pour mettre l'armée dans ses casernes et pour renforcer son pouvoir. L'opposition, à l'inverse, étant souvent faible, et restant faible aujourd'hui, c'est souvent reposé sur l'Union européenne, comme si l'Union européenne allait se substituer à un quelconque parti politique. Bien sûr, l'Union européenne, elle avait des critères, on les connaît très bien, les critères politiques de la négociation d'adhésion, mais je pense que 2014-2015, bien sûr, toutes ces évolutions sont graduelles, donc on peut situer des dates, plusieurs dates successives, mais la succession de l'élection présidentielle août 2014, 52% pour Erdogan, et de l'élection législative suivante, juin 2015, où il y a un mouvement contrebalançant le pouvoir du président, ça c'est le grand choc pour l'Union européenne. Parce que juin 2015, c'est le déni de démocratie, enfin ce qu'en a fait Erdogan. Parce que ce que vous avez en juin 2015, c'est l'AKP qui reste premier parti, mais qui ne fait que 40-41%, donc ne peut plus, contrairement à ce qui s'était passé dans les 13 années précédentes, former un gouvernement à elle toute seule. Donc, selon les critères européens, coalition. On charge le Premier ministre de discussion sur une coalition, mais en même temps, on le torpille parce que la conception du président, c'est une conception majoritaire. J'ai 52%, j'ai donc un mandat, et je dois donc avoir tout le reste qui s'aligne. Et il l'a répété plusieurs fois dans les années suivantes, la justice, les médias, tout ça c'est très bien, mais ça doit s'aligner. Et on l'a vu encore récemment, au début de ce mois-ci, la Cour constitutionnelle a dit quelque chose sur des journalistes en prison. Le gouvernement a dit le contraire et une cour inférieure s'est alignée sur ce qu'a dit le gouvernement.
Oui, ça c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé. C'est le 11 janvier, la cour constitutionnelle qui ordonne même la libération de deux journalistes en considérant qu'il y a eu violation de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Deux tribunaux donc, qui a priori sont en dessous de la cour constitutionnelle.
Gina
Armet Insel a dit non, finalement, on maintient les journalistes en prison. Et il y a même le porte-parole du gouvernement qui intervient sur Twitter en disant la cour a dépassé les limites de ses pouvoirs législatif et constitutionnel. Est-ce que ça veut dire que, puisqu'on s'intéresse justement à qui peut contrer aujourd'hui, qui peut s'opposer à Erdogan, que le pouvoir juridique et l'état de droit, disons, ne sont plus en mesure aujourd'hui d'exercer leurs fonctions ?
L'état de droit n'existe plus déjà avant cet événement. L'état de droit signifie que la justice soit indépendante et que les règles de droit soient acceptées. En Turquie, aujourd'hui, avec cette décision, c'est l'état de la loi, tout simplement. C'est-à-dire le gouvernement ne respecte pas ses propres lois, même si ces lois ne sont pas démocratiques, ne respectent plus. Désormais, et cette décision de la cause de refus du Conseil constitutionnel provient d'une réaction précédente similaire pour une décision similaire de Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan, il y a un an et demi, quand la Cour constitutionnelle avait ordonné la libération d'un journaliste détenu, avait dit mais ce n'est pas légitime. Et les tribunaux n'ont pas accepté les décisions illégitimes du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, les décisions, justement, les cours considèrent que le Conseil constitutionnel dépasse ses compétences. Nous ne sommes pas dans l'état de droit, nous ne sommes pas non plus dans l'état de la loi, nous sommes dans l'état de l'arbitraire. C'est-à-dire que le gouvernement, avec son chef, décide quelque chose et la justice applique. Cette décision peut être conforme à la loi, cette décision peut être contraire à la loi. Cette décision peut être conforme à l'état de droit, cette décision peut être totalement à l'opposé de l'état de droit. Nous ne savons pas à l'avance ce qui peut être décidé, sauf le chef et selon son humeur du moment.
Alors si face à l'arbitraire, les tribunaux traditionnels ne sont plus opérants parce que à la solde du pouvoir, si la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle prend des décisions, Ariane Bonzon ne peut rien faire, quels sont les recours pour les Turcs ? J'évoquais au début de l'émission l'article que vous avez signé sur la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, article dans lequel vous expliquez qu'il y a eu énormément de requêtes qui ont été envoyées par des citoyens turcs auprès de cette Cour. Est-ce que, justement, elle peut se poser en recours? Est-ce que c'est ce qu'elle fait?
Alors, il y a eu beaucoup de requêtes. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a eu toute une stratégie d'enfouir la Cour européenne des droits de l'homme sous des requêtes parce que il y a eu, si vous voulez, le mouvement Gulen.
La noyer pour la paralyser.
L'ancien allié de Recep Tayyip Erdogan, qui s'appelle Gulen, l'imam Gulen, vous savez, qu'on accuse, enfin, dont on accuse les fidèles d'être partie prenante du coup d'État du 16, sont les premiers visés par des mises à pied, par des détentions, donc en Turquie. Et ils ont submergé, enfin il y a eu une stratégie de submerger la Cour européenne des droits de l'homme avec des milliers et milliers de recours. Hein. Moi j'ai rencontré des types qui me racontent comment ils ont fabriqué ça. Donc si vous voulez, la Cour européenne des droits de l'homme a joué sa survie quand elle a vu arriver ces milliers, c'est-à-dire 5 ans, enfin on parle de dixièmes de milliers. Hein,
ça atteint de 60 000 dossiers d'un coup par exemple.
Bon, donc ça a été énorme. Donc il fallait qu'elle joue sa survie. Alors, ce qu'il faut comprendre à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'on ne va à la Cour européenne des droits de l'homme que quand on a épuisé tous les recours dans son pays. Hein. Or, ce qui s'est passé, c'est que les cours qui étaient là ont dit que ce n'est pas notre problème parce que c'est l'état d'urgence. Nous, on n'a pas à traiter les cas de personnes mises à pied, etc. Donc, elles se sont très vite déportées sur la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas traiter tant de cas. On va instituer une nouvelle commission de recours.
Ouais, parce qu'il faut rappeler, juste parenthèse, que le pays vit sous le régime de l'état d'urgence depuis le coup d'état de juillet 2016.
Hein. Alors, c'est un peu considéré comme, au fond, elle s'est défaussée. Au lieu de prendre toutes ces demandes, puisque c'était à elle de les traiter, il faut dire que ça représentait quelque chose de très important, la Cour européenne des droits de l'homme, pour les Turcs. Hein. C'était vraiment... Ça, c'est une chose qu'on oublie, mais même pour des petits paysans kurdes, même pour des gens qui sont pas, qui connaissent pas très bien l'Europe, si vous voulez, c'était vraiment une garantie, ou ça représentait quelque chose pour eux. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme s'est défaussée sur une institution qui n'a toujours pas rendu de jugement, qui n'a pour l'instant, qui va peut-être bientôt rendre des jugements, mais enfin, vous voyez, donc là, il y a quelque chose de très décourageant pour la, disons, l'opposition turque qui a espéré beaucoup en la Cour européenne des droits de l'homme.
Est-ce que ça veut dire que c'est pas du côté, en tout cas, du juridique qu'il faut attendre que quelque chose se passe pour essayer de contrer un petit peu ce pouvoir de plus en plus autoritaire du président turc, Mark Pirini?
D'un certain côté, nous avons des échéances devant nous. Le mois prochain, la Cour européenne des droits de l'homme va devoir se prononcer sur un certain nombre de cas, à la lumière de ce qui s'est passé le 11 janvier, c'est-à-dire que le recours turc n'existe plus. Deuxième chose, au début du mois d'avril, la Commission européenne va enfin reprendre son habitude, son obligation institutionnelle de produire ce qu'on appelle un rapport de progrès, qui sera plutôt un rapport de régression, bien entendu, mais sur l'état de la gouvernance en Turquie. Or, ce qui s'est passé, outre ce que l'on vient de dire, c'est que depuis le coup d'État, vous avez une purge féroce, justifié par le gouvernement.
140 000 fonctionnaires limogés, enfin ça c'est les derniers chiffres que j'ai vu dans la presse.
Et environ 60 000 personnes en prison. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui sont limogés d'un emploi public, on leur attache un code spécial à leur numéro d'identité nationale, donc ils ne peuvent pas retrouver d'emploi. Par ailleurs, la justice est bien sûr engorgée, donc les procès avancent très très lentement. Et puis surtout, le signal a été donné que vous pouvez être arrêté pour à peu près n'importe quoi sous l'état d'urgence. C'est-à-dire un message subliminal, un billet d'un dollar qui aurait été soi-disant le signe de reconnaissance de...
Un billet d'un dollar avec F, hein, ouais. De série F.
Bon, il y a des gens qui en possèdent un avec F et G, et c'est encore plus grave.
Ce qui pourrait vouloir dire quoi, pardonnez-moi, parce Fethullah que là, je ne saisis pas. D'accord.
C'est ça, ah oui, Fethullah Gulen.
Donc, le fameux prédicateur dont voilà. Les adeptes seraient à l'origine du putsch.
Dans les billets de 1 dollar américain, il y a 2 lettres et 6 ou 8 chiffres. Donc voilà. Ça va jusque-là. Ça va jusqu'à des gens qui ont dû changer leur plaque de voiture parce qu'il y avait F et G, etc. etc. Et maintenant, on est dans une sorte de spirale où absolument tout est susceptible de devenir une accusation de terrorisme, et où surtout les pouvoirs publics, le président lui-même, prononce une condamnation avant la fin même de la garde à vue. La garde à vue sous l'état d'urgence, c'est 7 jours. Il est arrivé, dans le cas d'Osman Kavala, par exemple, qu'au 6e jour, le président lui-même dise « on connaît bien les connexions, on a tous les éléments, et on va en tenir compte dans les jugements ». Donc, c'est plus du tout l'état de droit. L'Europe ne peut plus dire, même en faisant preuve d'une grande générosité, que l'état de droit existe encore.
Mais avec cette possibilité de se retrouver harcelé, voire emprisonné pour moindre marque d'opposition réelle ou supposée, ça crée quel type de société, Ariane Bonzon et Ahmet İnsel? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les Turcs en sont non même pas à se poser la question de savoir s'ils vont descendre dans la rue pour manifester contre le pouvoir en place, mais à être dans le contrôle de leurs propres actes dès qu'ils sont, par exemple, sur les réseaux sociaux? Avec une peur peut-être justement d'être interpellé.
Il y a une peur. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux encore. Il y a une créativité, une imagination de l'opposition, mais extraordinaire parfois. Enfin, je veux dire, on aurait beaucoup à apprendre ici en France de certains militants parce qu'ils ont. Alors ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que je les vois mal reprendre la rue. Je parlais là avec une écrivaine justement turque qui me dit il y a une telle violence politique maintenant qu'on ne voit pas appeler à descendre dans la rue. Ça devient trop dangereux. Il y a effectivement des milices aussi qui ont été formées et qui peuvent réagir assez rapidement, d'autant plus qu'il y a un décret qui vient de voter l'immunité pour toute personne, enfin turque, qui prendrait, si vous voulez, la défense en gros du pouvoir face à l'opposition. Hein. Donc là, ça devient extrêmement dangereux. Je vois très mal des manifestations comme il y a eu à Gezi il y a 3 ans. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense.
Actuellement, il y a eu quelques manifestations, par exemple, lors du début de déclenchement de l'opération militaire turque en Afrin, au nord de Syrie. Il y a eu quelques tentatives de manifestations pour la paix. La violence policière était très forte, avec immédiatement des centaines de personnes arrêtées. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, plus de 300 personnes sont aujourd'hui en arrestation pour avoir envoyé des messages sur médias sociaux protestant contre l'intervention turque en Syrie. Alors, vous voyez bien que si votre message Twitter est déjà suffisant pour être arrêté et voire même détenu, descendre dans la rue, c'est quasiment impossible. En revanche, il y a effectivement une résistance sociale qui est de plus en plus brisée depuis l'intervention en Syrie, parce que évidemment Tayyip Erdogan a mobilisé le réflexe nationaliste, y compris dans l'opposition, et a reconstitué autour de lui un bloc qui pense pouvoir le transformer en un acquis électoral pour les prochaines élections.
Et donc avec ce décret assez incroyable qu'évoquait Ariane Bonzon, donc qui offre l'immunité à tous les civils qui, quel que soit leur...
Le décret est ambivalent. Ils disent que ce n'est pas pour le futur, c'était simplement les civils qui sont intervenus lors de coups d'État, mais qui ont tué des putschistes, soi-disant putschistes, certains civils.
Sauf que manifestement, il est suffisamment ambigu pour être...
Voilà, ça fera jurisprudence.
Voilà, ça peut faire une jurisprudence. La formulation est ambivalente. Il n'y a pas une limitation dans le temps. Et même l'ancien président Gül a reconnu que la formulation était ambivalente. Et quand on dit en Turquie une formulation est ambivalente, ce n'est pas par hasard. La bureaucratie juridique turque est totalement compétent pour faire ça dans l'esprit d'une utilisation ultérieure.
Quand vous dites même l'ancien président Gül qui faisait partie de...
C'est un des fondateurs du parti AKP.
De l'AKP, donc voilà, qui fait partie du même parti que Recep Tayyip Erdogan. Mais Pierini, est-ce que justement le président turc aujourd'hui joue de cette tension, de ces divisions, c'est de la société turque, quitte à prendre le risque, est-ce que, alors sans aller jusqu'à parler de guerre civile, mais enfin, jusqu'à prendre le risque peut-être d'affrontement et de violence et d'autorisation, une forme de lynchage à travers ce décret.
Il y a clairement une stratégie de la tension. On l'a vu à partir de juillet 2015, donc quand ces élections ont été perdues. Tout d'un coup, il y a eu un renversement d'alliance, c'est-à-dire alliance entre l'AKP et le parti nationaliste MHP, et arrêt complet du processus de paix avec le PKK, les insurgés kurdes. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez eu une sorte de narratif totalement nationaliste qui s'est installé, et qui a bien sûr été renforcé par le coup d'État, et qui aujourd'hui est renforcé dans le cadre de l'opération militaire vers Afrine. Tout cela a un but essentiel, c'est maintenir la coalition, et bien sûr le président, en contrôle de la situation, parce que les sondages, le référendum d'avril 2017 montre que c'est très très juste. On n'est pas assuré de gagner à tous les coups. Donc, on peut même, certains et moi y compris, prétendre que l'opération militaire à Afrin depuis samedi il y a une semaine a d'abord une motivation électoraliste.
Vous êtes d'accord avec ça, Armin?
Tout à fait. Ça a d'abord une motivation électoraliste et il y a une mobilisation nationaliste. Il faut reconnaître par rapport à la question que vous avez posée dès le départ, c'est-à-dire qui peut stopper Erdogan? Normalement, on devrait penser l'opposition et Tayyip Erdogan. Derrière Tayyip Erdogan, il y a un bloc de 45-50% des électeurs. Donc, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est la moitié. Donc, du coup, on pourrait penser que les autres 50% pourraient être l'alternance. Mais le problème, c'est que derrière Tayyip Erdogan, il y a un vrai bloc qui sont derrière Tayyip Erdogan, qui suivent massivement avec des hauts, des bas entre 40 et 50%. Et aujourd'hui, il est en train de refaire un bloc islamo-nationaliste, à la fois musulman conservateur, mais aussi très nationaliste, ethniquement nationaliste turc. Face à Tayyip Erdogan, les 50% autres qui disent non à Tayyip Erdogan, mais ils sont très divisés. Il y a des Kurdes, il y a l'extrême droite, il y a des nationalistes, il y a des modernistes, etc., etc. Donc ça fait pas un bloc, ça fait trois grands groupes qui s'additionnent pas. D'ailleurs, nous avons vu, Marc Pierini parle de ces élections de juin 2015 où Tayyip Erdogan a perdu la majorité parlementaire, mais la majorité, la contre-majorité parlementaire ne pouvait pas s'additionner. Et il y a cette impossibilité d'avoir face à Tayyip Erdogan un leader, une figure politique capable de ramasser, de réunir 50% qui dit non au référendum à Tayyip Erdogan.
Voilà, parce que le référendum donc sur les changements constitutionnels donc a eu lieu au mois d'avril dernier, avec un oui qui obtient 51,41%, qui est donc tout sauf un plébiscite. Et alors là, je vais citer un de vos articles, Ariane Bonzon, que vous avez écrit à l'époque, puisque vous disiez ceci: cette victoire à l'arraché va nourrir le sentiment d'illégitimité à son égard, à l'égard d'Erdogan. Il lui faut donc mobiliser l'opinion en sa faveur en dramatisant la situation. C'est exactement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui.
Exactement.
En multipliant les enjeux. Alors moi, je suis un tout petit peu plus, moins peut-être absolue que Armet et Marc sur l'intervention en Syrie. Certes, l'agenda intérieur est important, mais ça fait depuis le début de la crise syrienne qu'il réclame une bande à l'intérieur de la Syrie pour empêcher la constitution d'une grande part d'une grande zone autonome kurde. Ça, on lui a refusé. Je suis pas sûre qu'on a eu raison de lui refuser. C'est toute une histoire. Donc là, il veut être là. Il veut être là. Et les Russes et les Iraniens, je pense, visiblement, il y a eu un deal pour qu'effectivement cette présence, il va rester là. Ils vont pas repartir, hein, les Turcs. Donc ils mettent un pied à Afrin et, enfin, ce sera peut-être pas Afrin, mais il va y avoir, ne serait-ce que par leur supplétif, quoi, qui sont maintenant l'armée syrienne libre, parce que l'armée syrienne libre maintenant elle a été formée, elle est dans le giron turc maintenant, hein. Elle a beaucoup, elle n'a plus tellement d'autonomie, elle est formée, elle est armée par la Turquie.
Cette intervention d'ailleurs militaire turque à l'extérieur de ses frontières, Marc Pierini, est-ce qu'elle est, alors si ce n'est inédite, non, puisqu'il y a quand même le précédent de Chypre qui n'est pas un mince précédent, mais est-ce qu'elle est en tout cas suffisamment exceptionnelle pour être notée? Et par ailleurs, est-ce qu'on peut dire que c'est une opération qui est illégale, c'est-à-dire une armée qui intervient dans un autre pays sans quoi, sans légalité internationale? Rappelons que la Turquie fait partie de l'OTAN. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de pression, justement, sur le pouvoir turc aujourd'hui pour...
Il y en a très peu. D'abord, l'opération à Afrin, c'est la deuxième après Bouclier de l'Euphrate, qui est dans la zone voisine immédiatement à l'est. Mais on peut d'abord se poser la question de pourquoi la Turquie n'a pas essayé de régler ce problème des forces militaires kurdes syriennes par la diplomatie. Elle aurait pu le faire avec la Russie, elle aurait pu le faire avec les États-Unis. Elle n'a jamais essayé. Bien. Maintenant, chacun sait que le dossier syrien est dominé par la Russie. Parce que, intervention depuis septembre 2015, présence militaire importante, base aérienne, missiles antiaériens, etc., etc. Bien. Et la Russie, elle a un seul objectif, c'est de redonner à Assad le contrôle total du territoire, y compris le contrôle des frontières, mais elle n'a jamais dit que les Kurdes syriens n'auront aucun rôle. Elle a au contraire dit, par la voix de Poutine à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015, que les Kurdes devaient avoir leur présence politique sous une forme à déterminer, ce qu'ils n'ont jamais eu dans le régime Assad. Jamais. Ils n'avaient même pas de papier d'identité jusqu'en 2012, faut pas oublier. Donc, ceci arrivera d'une façon ou d'une autre. Donc, ce que la Turquie fait actuellement à Afrin, c'est d'abord de mettre un pied dans la porte pour essayer d'empêcher les Russes de faire une solution qui leur est d'abord... Et puis, il y a les menaces contre les forces américaines qui sont sur l'Euphrate jusqu'au Tigre, c'est-à-dire jusqu'à la frontière irakienne. Et là, si l'on écoute simplement la rhétorique d'Erdogan, il pourrait y avoir des conflits ouverts entre les deux, ce qui est quasiment impensable au sein de l'OTAN, bien sûr.
Ahmet İnsel, imaginons que tous les Turcs puissent s'exprimer librement aujourd'hui en Turquie. Est-ce qu'il y aurait une forte opposition contre justement cette intervention turque dans le nord de la Syrie?
Non. Actuellement, les sondages, évidemment, ne sont pas très fiables, mais de ce qu'on peut voir dans notre entourage, y compris dans l'expression des partis politiques, il y a quasiment un seul parti politique représenté au Parlement, c'est le parti HDP qui s'oppose à l'intervention. Le parti principal d'opposition, CHP, soutient l'intervention en Syrie, le parti d'extrême droite soutient évidemment encore plus, et le parti du le parti de Tayyip Erdogan.
Et le patronat,
etc. Il y a une vraie mobilisation. C'est pour ça d'ailleurs, Ariane Bonzon a raison de souligner, cette intervention en Syrie dépasse, disons que Tayyip Erdogan l'utilisera et probablement massivement pour les prochaines échéances électorales de 2019 s'il n'y a pas pas des élections anticipées. Mais par ailleurs, cette intervention s'inscrit dans une logique de la logique de la raison d'État fondatrice de la Turquie. Ce n'est pas simplement Tayyip Erdogan, l'armée turque, les grandes institutions, etc., pensent de la même manière, c'est-à-dire un danger kurde. Et ça, c'est le grand problème de la Turquie. C'est le problème kurde est vécu comme un problème qui participe de la survie de l'État. C'est-à-dire que si les Kurdes gagnent quelque chose, c'est la Turquie qui perdra massivement la sécurité nationale ou encore peut-être plus. Par ailleurs, sur Tayyip Erdogan, on pourrait penser qu'après avoir autant gagné, pourquoi Tayyip Erdogan ne joue pas la carte de l'apaisement ? Il a gagné le référendum, il a gagné les élections, il va probablement gagner les élections dans l'année à venir. Pourquoi il ne joue pas la carte de l'apaisement? À mon avis, il y a deux raisons. D'abord, comme on a souligné, sa stratégie de gagner, c'est toujours par la polarisation, par le conflit. Et ce n'est pas propre à Tayyip Erdogan. À peu près partout dans les autocraties, on retrouve cette stratégie. En Inde, en Hongrie, en Pologne ou au Venezuela, à peu près la même stratégie. C'est-à-dire que c'est la mobilisation des siens qui est obtenue par la polarisation. Et deuxièmement, je crois que Tayyip Erdogan aussi, il sait qu'il a été trop loin dans la remise en cause de la constitution en cours. Il a été trop loin dans les violations de l'état de droit. Si Tayyip Erdogan perd le pouvoir, ça peut être très grave.
Ça peut être très grave, c'est-à-dire qu'il pourrait se retrouver...
On ne sait pas. En tout cas, il a dépassé le point de non-retour. Et c'est ça qui est le grand problème, c'est que les dictatures ferment l'alternance pour pouvoir, et justement cette possibilité de l'alternance, parce que les dictatures, au-delà d'un certain seuil, ils ont obligé de faire toujours une fuite en avant pour pouvoir rester.
Alors reste justement peut-être sur la deuxième option que vous évoquez, Ahmet İnsel. Est-ce que ça veut dire qu'aussi dans la tête d'Erdogan, il y a peut-être la crainte de ne pas être reconduit au pouvoir l'an prochain, 2019. Donc, législative et présidentielle, c'est bien ça.
C'est fort possible que ça soit anticipé. Certains disent même qu'elle pourrait avoir lieu pour l'anniversaire des deux ans de la commémoration du coup d'État, en juillet. Il apparaît comme le Gezi, le chef de guerre. Et ça marche très très bien, si vous voulez, dans l'opinion populaire turque. J'ai lu un article récemment, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Soner Çatay, qui dit, au fond, la solution dans laquelle on peut s'en sortir, c'est qu'il faudrait qu'on offre à Erdogan et à son entourage l'assurance qu'ils ne seront pas poursuivis, qu'il n'y aura pas de procès contre lui. Et qu'il faudrait que les partis d'opposition fassent quelque chose comme ça, et peut-être là, c'est une façon de s'en sortir. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que là, du coup, il pourra baisser la garde et admettre que bon, il peut se faire remplacer. Cela dit, il n'y a pas énormément de personnalités qui peuvent le faire remplacer. Moi, je ne crois pas du tout, par exemple, à Abdullah Gül, qui est l'ancien fondateur, pour une raison toute simple, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il est sourd, donc il a un problème physique qui peut l'empêcher quand même de... Et puis, il a toujours été. Il est plus critique. Il peut saper Erdogan, mais il ne le remplacera pas.
En revanche, il y a quelqu'un qui se dit en mesure de le remplacer. J'ai vu ça. Alors, elle était interviewée dans le Figaro. C'est l'ancienne ministre de l'Intérieur, Meral Akşener, et son parti, le Bon Parti. Elle dit « Je n'ai pas peur. Je suis une rivale sérieuse pour Erdogan. » Marc Pierini.
Alors, en effet, c'est une dissidente du MHP. Il y a du mécontentement dans le MHP à cause de cette alliance.
Les MHP sont les nationalistes.
Le parti nationaliste traditionnel, qui est en perte de vitesse, tout le monde le sait, et qui a été en quelque sorte récupéré par l'AKP, par Erdogan. Une partie en tout cas. Et donc, en théorie, oui. Le problème n'est pas là. C'est que dans la stratégie actuelle, où vous n'avez plus aucun contre-pouvoir, donc il n'y a plus la justice, il n'y a plus les médias, il n'y a plus la société civile. Il y a quelques gens courageux qui continuent à faire des tweets ou à écrire des articles, mais c'est très très peu de choses par rapport à une démocratie libérale. C'est très difficile de voir comment cette opposition, qui est malgré tout composite, il y a des nationalistes, il y a des sociodémocrates, il y a des Kurdes, il y a des mécontents de l'AKP et des mécontents du MHP. Mais comment ces gens peuvent se rassembler, c'est très difficile à voir.
Comment ils vont faire campagne, c'est-à-dire s'il y a cette présidentielle et ces législatives, c'est-à-dire comment faire campagne, notamment dans les médias, si les médias sont bridés.
Alors, c'est là qu'on peut revenir à la dernière consultation électorale, qui est le référendum de l'année dernière, où vous avez vu une situation où, premièrement, l'opposition qui était opposé au référendum, ne pouvait faire campagne que si le gouvernement lui donnait l'accord pour faire des meetings, hein, quand même un peu bizarre. Deuxièmement, les médias télévisés étaient très largement monopolisés par le pouvoir.
Et par Tayyip Erdogan lui-même.
Et par le président lui-même, alors que ce n'était pas une élection présidentielle. Et ensuite, il y a eu des irrégularités pendant le vote, où tout d'un coup, à 5h de l'après-midi, heure où on ferme les bureaux de vote, on annonce sur le site de l'instance électorale qu'on va changer les règles de comptage des votes, qu'on va compter les votes non éligibles, auxquels il manquait un tampon. Bien. Et avec ça, vous arrivez à 51 et quelques pourcents. Bon. Et puis vous n'avez plus de preuves, puisque tous les bulletins non éligibles ont été tamponnés entre-temps. Tout ceci a été critiqué par l'OSCE, par le Conseil de l'Europe, etc. Mais vous voyez bien qu'il y a tout un système en place pour contrôler le pouvoir. Et moi, je pense que ça reste, ça fait partie d'une stratégie délibérée.
La France ne doit pas renoncer à dialoguer avec les régimes qui ne partagent pas nos valeurs. C'est un dialogue indispensable qui permet à un moment d'obtenir des résultats. Ça, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron au moment de recevoir Recep Tayyip Erdogan à Paris. C'était au début du mois de janvier. Est-ce que c'est la bonne méthode, c'est-à-dire maintenir malgré tout le dialogue plutôt que d'imaginer, par exemple, des sanctions, ce que pourrait tout à fait faire l'Union européenne à l'égard de la Turquie, Ahmet İnsel, de la même manière que l'Europe a sanctionné la Russie?
Alors, sanctionner la Russie, la Turquie comme la Russie, on pourrait d'abord commencer, dans ce cas-là, à considérer et annoncer ouvertement que la Turquie n'est plus candidat à l'adhésion.
Ouais, donc, qui croit encore à l'adhésion
oui, mais
de la
sur
Turquie.
Papier, ça, c'est toujours, ouais. on garde sur papier.
Sauf que Macron est allé un degré au-dessus, là, hein, dans son discours. Il a dit, c'est hypocrite d'en parler encore, tout le monde sait que c'est fini, etc.
Non, sur, hein, la première sanction.
Parce que les relations économiques, la Turquie.
Sont très fortes.
Se porte plutôt bien. Enfin, il y a un taux de croissance qui est assez important. Ouais. C'est en grande partie quand même grâce à ses relations avec l'Europe.
En partie, il y a aussi le dynamisme de l'économie turque. Il y a plusieurs facteurs. Et puis, il y a la politique économique du gouvernement qui est une politique qui maintient la consommation et les infrastructures publiques massivement, hein, contrairement à ce qu'on fait dans l'Union européenne. Ils n'ont pas peur de dépenser de l'argent, de faire des dépenses publiques massivement, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a deux options. Il y a l'option de dialogue, mais l'option de dialogue peut se transformer en une sorte de couverture d'une mascarade. C'est-à-dire, on parle ici, on remet en cause, on critique, et puis après, quand Tayyip Erdogan rentre dans son pays, c'est comme si on a écrit sur du sable mouvant. Donc, malheureusement, on doit aller un peu plus loin sur la réflexion. Et c'est vrai que c'est une question délicate. On ne peut difficilement dire il faut faire exactement ceci. L'Union européenne, je pense, a plus de responsabilités à prendre que celle, la posture très low profile qu'il a actuellement.
Qu'en pense l'ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie ?
Garder le dialogue, bien évidemment, parce qu'il y a toutes sortes de sujets importants et pas seulement des intérêts économiques. Il y a le contre-terrorisme, il y a beaucoup d'autres choses. Mais de là à espérer que le président Erdogan va changer sa position pour les yeux bleus de l'Europe, non, il ne va pas le faire. Donc, je pense que c'est en quelque sorte illusoire. Le problème qui se pose, parce qu'on est toujours tenté de répondre à cette demande insistante de la Turquie, d'avoir un sommet. Un sommet. Mais si vous faisiez aujourd'hui un sommet entre les 28 ou les 27 et le président Erdogan, ça revient à voter Erdogan. Ça, c'est une opération de prestige. Regardez ce qui s'est passé le 5 janvier. La visite était très dure, parce qu'on a parlé de droits de l'homme, on a parlé de gouvernance, et on a dit non, le président Macron a dit non à l'adhésion. Mais regardez ce qui est sorti dans les médias turcs. C'était intéressant. Il y a eu la photo. Puis on ne parle pas des mauvaises nouvelles.
Aucune. Hein,
parce qu'on est dans une situation où il n'y a plus de compte pouvoir.
Mais ils étaient très gênés. Moi, j'ai vu un des conseillers, après j'ai pris un café avec un des conseillers du président Erdogan. Je lui dis, mais quand même, vous avez vu ce qu'on vous a dit ? Motus, ils ont mis quelques jours à réagir. Oui. J'insiste juste, la coopération sécuritaire, vous l'avez évoqué, c'est essentiel. Je veux dire, maintenant, beaucoup de djihadistes, il y en a qui sont allés en Turquie. Hein. Il y a une coopération sécuritaire très importante. Ça, c'est vraiment la chose dont on ne parle pas, évidemment, parce que c'est un peu secret.
Mais et puis, il y a l'accord sur les migrants, bien entendu.
Il y a l'accord sur les migrants. Donc ça peut-être que c'est peut-être la raison qui domine tout de ce rapprochement, en tout cas de ce dialogue.
Écoutez, merci beaucoup en tout cas à tous les trois de nous avoir éclairés sur ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. Merci Ariane Bonzon, Marc Pirini et Ahmet Insel. Les références bibliographiques des uns et des autres, les liens vers vos sites, c'est sur le nôtre, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre, émission que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez également nous écrire si vous le souhaitez. Il y a un petit logo sur la page du site. Merci à toute l'équipe du Grain. Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster, Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. Je vous retrouve demain à partir de 18h20. Nous poserons la question suivante dans le cadre d'une série de deux émissions consacrées à la réforme de l'État. Jeudi, ce sera pour savoir si l'administration est un peu trop tatillonne, l'administration française. Et demain, faut-il supprimer le classement de sortie de l'ENA ? Dans un instant, ce sera la dispute avec Lucille Como. Bonsoir Lucille.
Bonsoir Hervé. Dans quelques minutes, une dispute consacrée à la musique classique. Mais tout de suite, ce sont les titres de l'actualité avec Antoine Maret. Bonsoir Antoine.